Passe de bon dimanche à toutes et à tous.
Babel, Carole Pirker.
En Algérie, l'émir Abdelkader est un héros. Il est considéré comme le père de la nation algérienne. Pourtant, c'était aussi un grand mystique. En avril dernier, l'écrivaine Karima Berger nous avait fait découvrir la face cachée de cette personnalité hors du commun. C'est son entretien que nous vous proposons ce matin en nouvelle diffusion. Vous écoutez Babel, bienvenue à vous. On parle donc d'une figure emblématique de l'Algérie. Et c'est avec vous, Jessica Da Silva. Bonjour.
Bonjour, Carole. Oui, au début du 19e siècle, l'émir Abdelkader va lutter pendant 15 ans contre l'occupation française. C'est un chef militaire, un guerrier, mais il a une éthique de la guerre. En 1843, il élabore une charte pour garantir des droits à ses prisonniers. C'est donc un précurseur du droit humanitaire. Et durant son exil à Damas, l'émir Abdelkader va aussi sauver des chrétiens.
Mais comment expliquer cette facette humaniste ?
Elle lui vient de son éducation et de sa foi. Abdelkader est issu de la noblesse religieuse soufie. À 24 ans, il dirige la résistance face aux Français en tentant de réunir les tribus d'Algérie. Mais à la base, c'est un homme de foi, un mystique. Et c'est cet aspect de l'émir qui a inspiré le dernier livre de mon invité, Karima Berger.
Comment s'appelle alors ce livre ?
Émir Abdelkader, l'Arabe des Lumières. Il est paru aux éditions Albin Michel en janvier dernier. Karima Berger esquisse une biographie sensible, presque poétique de l'émir. Elle met en lumière les différentes facettes de ce héros national qui, selon elle, est l'un des plus grands saints de l'islam.
Mais Jessica, pourquoi Karima Berger est autant fascinée par la facette spirituelle de l'émir Abdelkader ?
Eh bien, c'est justement la première question que je lui ai posée.
Peut-être parce qu'il a été connu jusqu'à présent que sous son aspect guerrier, sous son aspect de commandeur, d'émir, de sultan. Mais en tant que guerrier, il a été très spirituel aussi. Ça n'est pas contradictoire. Sachant que son nom, c'est Abd al-Qadir, ça veut dire le serviteur du puissant. Et le puissant, il n'y en a qu'un seul, c'est Dieu. Donc dans son nom même, il y a déjà cette tension entre deux pôles d'un même arc. D'un côté le serviteur, de l'autre le puissant, d'un côté celui qui se soumet, et de l'autre le Seigneur qui régit tout.
Est-ce que vous pouvez nous décrire l'Algérie de l'enfance d'Abdelkader au début du 19e siècle?
Alors Abdelkader descend d'une confrérie d'origine irakienne du 9e siècle, fondée par un grand maître soufi, Al-Gilani, et son père était le responsable, le chef de la confrérie en Algérie. Ces confréries étaient très fréquentes en Algérie. Il n'y avait pas d'État central, mais il y avait beaucoup de tribus, et la tribu recouvrait un peu la confrérie. La confrérie, c'est une forme d'aristocratie plutôt religieuse, avec un chef à sa tête et toute une vie civile avec des mosquées, avec des écoles, avec un droit, avec des tribunaux. Sur ce périmètre de la confrérie, il y avait une véritable petite république, si on peut dire. Et Abdelkader est né dans ce milieu de lumière, puisqu'il y avait cette dimension spirituelle qui était en permanence présente. C'est la Zaouïa. La Zaouïa, c'est le lieu qui accueille les pèlerins, qui accueille les croyants qui viennent pour une fête ou qui viennent pour prier. Et ces zaouïas sont des lieux où on peut venir apprendre le Coran, apprendre les hadiths. Mais à l'extérieur de la zaouïa, de la confrérie, il y a aussi un certain nombre d'écoles qui sont financées par cette confrérie pour dispenser un maximum de savoir. Et donc il y avait véritablement un lieu de civilisation, un lieu de culture, avec des lois, avec des règles, avec des coutumes, avec un taux d'alphabétisme tout à fait étonnant. Au point que la mère même d'Abdelkader était lettrée et elle connaissait parfaitement son Coran. Elle connaissait parfaitement sa poésie. C'est elle qui va lui apprendre le Coran. Moi, ma grand-mère, en 1960, elle était analphabète. Je voudrais juste citer Tocqueville, Alexis Tocqueville, le grand défenseur de la démocratie. Il reconnaît que dans cette Algérie du 19e siècle, il y avait un savoir, il y avait une culture, et il dit « nous avons éteint leur lumière ».
Karima Berger, cette Algérie dont vous parlez, ce n'est pas encore l'Algérie unifiée. Quelle est la situation politique qui voit naître le petit Abdelkader avant qu'il devienne, à 24 ans, l'émir des croyants, littéralement le commandeur des croyants? Juste un petit point de situation dans cette Algérie désunifiée.
Il y avait la régence turque, puisque le territoire de l'Algérie faisait partie de la Sublime Porte de l'Empire ottoman. Et la régence turque, qui était installée à Alger, dans les grands ports, à Annaba et à Oran, s'était peu souciée de la population d'Algérie, à vrai dire. Ce qui les intéressait, c'était essentiellement collecter l'impôt, et avec une certaine violence. Bon, alors certes, la religion était la même, la langue n'était pas la même, puisque les Algériens ont toujours parlé l'arabe ou le berbère selon les régions. Donc il y a cette régence turque qui est très peu gouvernante. Elle est administrative, point, mais elle n'a pas, comme la colonisation française l'a été, porteuse de valeurs qu'elle voulait implanter, etc. Et puis en 1830, l'Algérie se voit envahie par l'armée française en juillet 1830. Et puis il s'installe au fur et à mesure, découvrant toute la richesse que contient ce territoire. Et Abdelkader, qui est le quatrième des fils de la famille, son père lui demande de prendre le commandement du djihad, c'est-à-dire la petite guerre, la guerre des hommes, qui n'est pas la guerre de l'âme, qui est le grand djihad, de prendre la tête du combat contre la colonisation française. Alors il refuse dans un premier temps, il a à peine 24 ans, il refuse, il dit « mais moi je suis un homme de prière, un homme de méditation, les armes c'est pas tout à fait ma tasse de thé ». Et il accepte finalement, et il accepte son destin, et il va le faire avec une très grande noblesse.
Abdelkader devient donc guerrier malgré lui, donc guerrier terrestre, puisque vous parlez du petit et du grand djihad. Alors on va peut-être revenir sur cette notion quand même qui est très importante du djihad, qui vient de l'étymologie de l'effort, s'efforcer. Quelle est la différence entre le petit et le grand djihad?
Le petit djihad, c'est la guerre des hommes. D'abord pour se défendre, comme l'a fait Abdelkader contre le colon français, non pas chrétien, français, en tout cas étranger, mais aussi éventuellement pour conquérir un territoire qui a été pris par l'ennemi. Ça, c'est la guerre des hommes. Et puis, il y a la guerre la plus noble, qui est l'effort porté sur son âme, à la fois la purifier, l'enrichir, l'embellir. On utilise en islam cette notion de polir, et de polir son cœur, comme on polie un métal. Il devient tellement brillant qu'il se fait miroir du divin. Donc cette âme, c'est l'objet du grand djihad. Et je voudrais peut-être citer un exemple. Les Français étaient complètement stupéfaits de le voir monter à cheval. Ils disaient « nous n'avons jamais vu une personne qui faisait tellement un avec son cheval. On ne voit plus la différence entre le cavalier et le corps du cheval ». Et donc il leur dit « ben oui, justement, à votre avis, entre un cheval et son cavalier, où est l'âme et où est le corps ?» Alors évidemment, on répond à l'occidental, c'est-à-dire que l'homme, le chevalier, c'est bien sûr l'âme, et le cheval, lui, n'est que le corps, il n'est que l'instrument. Il dit « mais c'est tout le contraire. Le chevalier, lui, il n'est que le corps. Mais la véritable âme, c'est le cheval. Parce que quand un homme, quand un cavalier dresse son cheval, quand il l'éduque, en fait, c'est un exercice comme pour éduquer son âme, pour embellir son âme. C'est ça le grand djihad. »
Karima Berger, l'émir Abdelkader est emprunt de soufisme. Comment est-ce qu'il fait la guerre? Quel stratège est-il?
Premier élément de sa stratégie, c'est de regrouper les tribus. Deuxième élément de sa stratégie, c'est de commencer à fonder un embryon d'État. Il crée une armée, il va frapper monnaie, il va monter des usines d'armes et de poudre, il va envoyer des ambassadeurs en Angleterre et dans d'autres pays pour défendre sa cause. Et enfin, il est stratège, non plus en tant que commandeur, mais en tant que spirituel. Il va pas dire « moi c'est ou toute l'Algérie ou rien ». il est très humble, il est clair, il est lucide sur ses forces et sur ses faiblesses. Et dès qu'il a les possibilités, il a suffisamment de tribus autour de lui, un territoire suffisamment grand, il signe un traité. Évidemment, pour certains, Algériens encore maintenant, certains historiens, enfin pour moi c'est pas des vrais historiens, il est un traître parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout et parce qu'il a concédé des territoires aux Français. Mais il les a concédés de façon temporaire. Hein. Il faisait la guerre avec la paix au cœur. Il faisait pas la guerre pour la guerre, il faisait la guerre avec sans cesse, le souci de la paix.
Karima Berger, en 1843, justement, l'émir Abdelkader exige dans un décret qu'un traitement humain soit réservé aux prisonniers. Il punissait même les personnes qui maltraitaient ces prisonniers. C'est un précurseur du droit international humanitaire. Il est même reconnu aujourd'hui par la Croix-Rouge.
Oui. À un moment où ni en Allemagne, ni en France, ni en Italie, on avait une unité du pays et on avait des règlements. C'était tout à fait précurseur. Et dans ce règlement, il interdit la conversion des prisonniers. Il ordonne à ce que les prisonniers, quand ils sont blessés, soient ramenés au camp pour qu'ils soient guéris. Il y a cette belle histoire du trompette Escoffier qui était son prisonnier, mais qui sur le champ de bataille s'était particulièrement fait reconnaître par sa bravoure. Et donc le roi le reconnaît et lui envoie une médaille. Eh bien, Abdelkader reçoit cette médaille et il convoque Escoffier sous sa tente et il lui remet la médaille sur son veston. Et Escoffier est complètement ébloui que son ennemi reconnaisse la bravoure qu'il a eue lors d'un combat avec lui. Il a par exemple des prisonniers français, eh bien il demande aux Français, il leur dit « écoutez, la guerre c'est déjà difficile, je vous propose d'échanger nos prisonniers ». Les Français refusent, donc il insiste et c'est grâce à l'évêque Dupuche, Monseigneur Dupuche, que finalement…
L'évêque d'Algérie donc.
Le premier évêque d'Algérie, tout à fait, et qu'il va échanger les prisonniers. Et puis pour ces prisonniers, il va demander à l'évêque, il va leur dire « mais il leur faut un prêtre ». Pour qu'ils viennent les voir, pour qu'ils viennent les consoler. Voilà, c'est faire la guerre, mais avec sans cesse au cœur le souci de la paix.
Karima Berger, l'émir Abdelkader va aussi créer la Smala, une sorte de camp fortifié qui se déplace, une ville mobile. Aujourd'hui, on parle de la Smala pour dire voilà, il vient avec toute sa Smala, donc avec tous ses proches. En quoi c'était une invention de génie? Parce qu'on a aussi des plans de cette Smala, circulaire, avec toute une organisation presque militaire, on va dire, c'est un campement quand même.
Oui, tout à fait. C'est un campement qui pouvait être composé de 30 000. Et ça pouvait aller jusqu'en 60 000. Ce sont toutes les tribus qui lui étaient ralliées. Parfois, les tribus, après, l'ont abandonné, revenaient. Il y a une certaine fluidité, mais il y avait au minimum 30 000 personnes qui s'installaient dans le camp. C'était une capitale volante. Au milieu, il y avait bien sûr la tente de l'émir Abdelkader. Et puis, il y avait des cercles successifs avec ces tribus, ses premiers alliés, et puis peu à peu jusqu'aux alliés les plus troubles ou en tout cas les moins sûrs. Et donc, cette capitale volante était capable de se désinstaller, de s'installer en 2-3 heures parce que l'armée française arrivait. D'ailleurs, le général Bugeaud disait à l'émir, mais vous avez un don d'ubiquité, vous êtes insaisissable. Et c'est là, il les a fait beaucoup souffrir parce que lui était rapide avec ses chevaux et ses chameaux et des équipements extrêmement légers, alors que l'armée française avait des équipements très lourds. La Smala, donc, était une organisation très sophistiqué, mais qui avait une dimension mystique aussi. Et il disait que si on regardait le plan vu du ciel, on pouvait retrouver le miroir du cosmos, de l'organisation du cosmos, avec des constellations, avec les étoiles. Donc il y avait aussi, même dans la constitution de cette capitale, une très grande poésie et une très grande beauté.
Le 16 mai 1843, c'est la prise de la Smala par le duc d'Aumale. C'est un vrai massacre. Ce duc va aussi s'emparer du trésor de l'émir, sa bibliothèque, tout un corpus de manuscrits anciens, son héritage. Aujourd'hui, on peut voir ces manuscrits, les manuscrits de Tagdemt, comme on les appelle, du nom de la capitale qu'avait créé justement l'émir Abdelkader. On peut les voir en France, à Chantilly, c'est un peu le trésor dérobé. Et c'était ça, finalement, son trésor. De l'écrit, du papier, c'est le trésor d'un lettré, au fait.
Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il avait en tête ce premier verset du Coran, le premier mot qui est dit par l'ange Gabriel au prophète Mohammed, c'est « Iqra », « lis ». Et celui qui lit, alors il peut lire le Coran, il a la capacité d'être près de son Seigneur. Donc Abdelkader avait une passion du livre, avait une passion de la poésie, du Coran. Il connaissait toutes ces sciences, l'astronomie, la physique, la trigonométrie, vous savez, toutes ces sciences du temps des Lumières de l'islam. Hein, voyez. Et lors de la prise de la Smala, qui était d'une violence inouïe parce qu'il n'était même pas là, il était en train de batailler ailleurs contre les Français. Et le duc de Mal l'a découvert tout à fait par hasard. Il n'y avait que des femmes et des vieillards et des enfants. Enfin, ça, c'est une grande honte aussi. Et donc, ils ont tous fantasmé sur un trésor. Le trésor, ce sont les orientaux, ça doit être de l'or et tout ça. Mais en fait, c'était des livres. Mais les livres, ils ont vite compris que c'était des livres très anciens. L'imprimerie n'existait pas à l'époque. Donc, c'était des copies à la main qu'il avait héritées de sa famille et que le duc de Mal a pris, qu'il en a fait sa collection. Et c'est pour ça que je l'appelle le voleur.
Pendant 15 ans, de 1832 à 1847, l'émir Abdelkader va lutter contre l'armée coloniale française et puis il décide en tant que commandeur des croyants d'arrêter la guerre, de renoncer. Pourquoi, Karima Berger ?
Pourquoi ? Parce qu'il est seul. Il ne peut plus aller au Maroc. Il y avait une frontière entre le Maroc et l'Algérie. Les Français ont ensuite imposé aux beys marocains d'interdire l'accès du territoire marocain à l'émir et de le déclarer hors la loi. Donc il ne pouvait plus aller se réfugier au Maroc. Mmh. Et donc, il passe une nuit de prière que je décris dans le livre. Il ne sait plus, il pense même aller au désert avec toute sa smala, avec toute sa famille élargie, et aller au désert. Et moi, ça me faisait penser à Moïse, hein, vous savez, qui conduit son peuple. Mais il se rend compte qu'il n'a pas les moyens. C'est un arrachement pour lui et il décide de renoncer. Et pour moi, c'est un geste magnifique. C'est un geste d'une immense spiritualité que de savoir dire non. J'arrête, je n'ai pas les moyens, ce sont mes limites.
Karima Berger, vous écrivez que cette reddition n'est pas que le dépôt de son arme, elle est un événement de l'âme. Il y a là en fait une décision qui est à la fois celle du chef militaire, celle de dire « continuer, c'est aller au pire pour mon peuple », mais en même temps aussi un appel qui le fait revenir à son grand djihad, comme on disait au tout début.
C'est ça, c'est ça. Je renonce à cette puissance que j'avais, qui était juste de commander et de diriger la lutte, parce que je n'en ai plus les moyens. Et je reviens presque à l'état antérieur, celui où je ne voulais pas faire la guerre, où j'étais seule avec mon Dieu à lire, à méditer, à prier, à écrire. Il a un courage inouï de dire « j'arrête », mais quand même il signe un traité de reddition pour dire « j'arrête le combat » et je demande en contrepartie d'être envoyée en Syrie près de mon maître Ibn Arabi, grand maître soufi spirituel, mort à Damas en 1240. Et donc, il demande à être envoyé en Syrie. Et malheureusement, il croit prendre le bateau pour la Syrie. Et en fait, il débarque en France et il reste prisonnier pendant 5 ans.
Karima Berger, comment est-ce que l'émir Abdelkader va vivre cette période de captivité, 5 ans en France ?
D'abord, il va écrire à tout le monde. Il va envoyer des émissaires partout, auprès du président Lincoln, de la reine Victoria, du pape. Il va écrire, il va voir la République en février 48. C'est en décembre 47 hein, qu'il signe ce traité de reddition. Il va dire, mais quand je vois les principes qui régissent votre République, n'y a-t-il donc pas un tribunal où je puisse défendre ma cause ? Je suis emprisonné, pour quelle raison ? Nous avons signé un traité de reddition avec le roi. Et pendant 5 ans, alors vous imaginez cette famille, cette smala qui vivent dans la nature, se retrouvent dans des châteaux, parce qu'on dit des châteaux, le château de Pau et puis le château d'Amboise, qui sont de vieux châteaux pourris. Donc il écrit. Il y a beaucoup de Français qui vont venir le voir, mandatés par le gouvernement français, pour essayer de le faire revenir sur la clause du contrat, qui est de l'envoyer en Syrie. Ils disent « Ok, on te libère, mais tu restes en France, on va te donner une villa où tu vas pouvoir faire vivre toute ta smala, tu
auras un revenu. » Ils ont peur, en fait. Ils ont peur qu'il, qu'il a une certaine influence en Orient musulman, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Est-ce que l'Orient musulman est en train de bouger un petit peu ? Parce que c'est la fin de l'Empire ottoman, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Mm-hmm. Et on se dit, c'est un pays un peu chaud au plan politique et il va reprendre les armes. Il dit, j'aurais jamais dû reprendre les armes et je ne les reprendrai jamais. Je les ai prises une fois parce que c'était mon destin. Voilà, donc il va vivre ses 5 ans, donc ses médiateurs vont venir le voir. Il va avoir des entretiens absolument magnifiques, beaucoup les ont chroniqués. Il y a beaucoup de mémoires qui sont admiratifs de ce personnage. Par exemple, Jean Garnier disait « Nous avons eu 2 heures d'entretien et pendant ces 2 heures, le barbare eut sans cesse l'avantage sur le civilisé que je suis. » Ils sont tous époustouflés par sa science, son élégance, sa noblesse.
Karima Berger, l'émir Abdelkader a aussi ses amis. Hein. Il échange avec l'évêque d'Algérie, Napoléon III, hein, en quelque sorte aussi son ami. Et puis pendant sa captivité, il va correspondre avec le peintre genevois Charles Hénard. Alors c'est un pieux protestant qui va offrir à l'émir sa première Bible en arabe.
Oui, c'est très très beau. C'était au château de Pau et l'émir voit tout de suite que Charles Hénard, il est habité spirituellement, qu'il a vraiment une dimension spirituelle, une dimension religieuse qui va beaucoup l'émouvoir. Il va aussi faire un des premiers portraits de l'émir Abdelkader en captivité. Un portrait extrêmement doux qu'il va faire de lui, semble-t-il, sans l'autorisation de Abdelkader. Parce qu'il ne voulait pas poser. Abdelkader disait « Moi, je ne peux pas accepter d'être pris en photo ou de poser. Je ne suis pas un homme libre. » Et, semble-t-il, Hénard a fait le portrait de lui derrière la porte vitrée du salon où résidait Abdelkader.
L'émir Abdelkader rayonne donc au-delà de l'Algérie, au-delà de son Orient musulman. Mais il va aussi passer finalement 36 ans d'exil à Damas jusqu'à ses derniers jours. Alors, on fait un grand saut temporel, bien sûr. Il va être donc libéré par Napoléon III. Et ensuite, il se rend à Damas et c'est là qu'aura lieu un événement qui va le rendre encore plus populaire. C'est ce sauvetage des chrétiens maronites.
Oui. Lui qui passait son temps en méditation, en prière et en enseignement à la mosquée des Omeyyades auprès de ses disciples, eh bien il va reprendre les armes, lui qui disait qu'il ne reprendrait jamais les armes, pour défendre les chrétiens. En juin 1860, il assiste à une poussée de fièvre où les musulmans, les druzes notamment, veulent bouffer du chrétien, si je puis dire, alors qu'il y avait un équilibre tout à fait clair depuis des années entre chrétiens et musulmans. Il y avait une grande paix, mais les puissances occidentales ont commencé à jouer leur jeu un peu pervers et à demander aux Turcs, donc à l'Empire ottoman, de donner des droits supplémentaires aux chrétiens. Et ces droits supplémentaires aux chrétiens allaient faire basculer l'équilibre existant. Donc les druzes sont très 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 en colère et c'est un véritable pogrom. Et donc Abdelkader va les défendre, il va faire appel à ses hommes, ses frères, ses oncles, qu'il va recevoir dans sa maison, dans les maisons de sa communauté. Il va recevoir les chrétiens menacés, il va aller frapper à la porte des communautés chrétiennes, des couvents. Il va leur dire « Sortez de là et venez chez moi ». Et on a beaucoup d'ailleurs d'images où on voit Abdelkader en train de sauver des religieuses, des moines. Voilà, c'est un geste assez magnifique. Et les druzes lui disent « Mais enfin, tu as bien combattu les chrétiens. Pourquoi tu ne nous laisses pas faire ce que l'on veut faire aujourd'hui ?» Il dit « Mais j'ai jamais combattu les chrétiens. J'ai combattu des Français qui se disaient chrétiens, qui avaient oublié leur évangile. » Le dialogue interreligieux, pour lui, c'est intra-divin, puisque les deux religions sont des faces différentes d'une même manifestation divine. Mmh. Hein? Donc les chrétiens font partie de la création divine et à ce titre, ils doivent être respectés.
Karima Berger, je vous propose maintenant d'écouter un extrait de votre livre. Vous expliquez comment l'émir Abdelkader peut aujourd'hui être une lumière pour les Algériennes et Algériens.
Avec le corps surreprésenté d'Abdelkader, a-t-on enterré l'esprit Abdelkader ? C'est une occultation insidieuse que de ne privilégier que le patriote ou l'adversaire. France et Algérie le privent de sa dimension spirituelle. Puisse son islam infiniment intériorisé et sa pensée vigoureuse de la modernité faire hériter la France musulmane d'aujourd'hui de ce souffle de paix. Abdelkader, l'Arabe des Lumières.
Je peux imaginer Abdelkader allant voir le président Macron et puis allant voir le président Tebboune, et donc le président algérien de la République algérienne, essayant de faire la médiation, faire l'homme de paix, l'homme humaniste, pour parler comme dans les temps modernes. Il aurait toute sa place aujourd'hui. C'est pourquoi je dis qu'il est une boussole sur notre chemin, ou une lampe pour nous éclairer aujourd'hui. Et avant de partir du château d'Amboise, donc quand il est libéré, il va offrir au curé d'Amboise avec qui il avait lié amitié un magnifique lustre en cristal qui est encore là. Et j'aime tellement cette idée que le lustre en cristal répand de sa lumière sur les chrétiens qui viennent prier le dimanche ou qui viennent prier dans cette église.
Karima Berger, vous avez choisi de partager avec nous un poème d'Abdelkader. Il s'agit du poème numéro 18, issu du recueil des poèmes métaphysiques.
Je vais le lire en arabe et puis en français, peut-être pas entièrement en arabe parce que nous n'aurons pas le temps, mais au moins pour vous donner à entendre cette langue arabe qu'il manie avec tant de beauté, tant d'élégance. Ana haqqun, ana khalqun, ana abd, ana rab, ana arsh, ana farsh, ana nar, ana khald, ana ma', ana nar. Je suis Dieu, je suis créature, je suis esclave, et je suis seigneur, je suis trône, et je suis natte étendue, je suis enfer, et je suis paradis, je suis union, je suis faveur, je suis proche, et je suis lointain. Je suis essence, je suis qualité, je suis ce qui était, je suis ce qui sera.
Karima Berger, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce poème? Pourquoi ces mots?
Parce qu'il a cette magnifique façon d'habiter le monde dans son entièreté. Cette façon holistique, comme on dit aujourd'hui, d'habiter poétiquement le monde, comme dirait Rilke, de n'exclure rien. Tout est divin.
Karima Berger, si vous deviez définir en trois mots les valeurs d'Abdelkader que vous aimeriez aujourd'hui transmettre aux Algériens, mais aussi à ceux qui nous écoutent.
Le goût de l'altérité, divine ou humaine, le goût de l'altérité, le goût de la lettre, de la science, de la réflexion, de la pensée, de l'interprétation, de la lecture, et le goût de la prière, le goût de la méditation, le goût du silence, le goût de la contemplation, qui nous ramène à l'essentiel.
Karima Berger, à votre micro, Jessica Da Silva, vous nous rappelez peut-être le titre de son livre ?
Oui, ça s'appelle Abdelkader, l'Arabe des Lumières, et il est paru aux éditions Albin Michel en janvier dernier.
Jessica Da Silva, merci pour cet entretien. Vous pouvez le réécouter en tout temps sur le site rtsreligion.ch et sur l'application Play RTS à l'enseigne de Babel. Si vous souhaitez y réagir, vous pouvez envoyer vos commentaires à babel@rts.ch. Gilles Ouzaman signe la réalisation de cette édition. Merci à lui et merci à Daniel Zacker pour la lecture. Daniel Zacker qui est aussi notre attaché de production. Voilà, Babel referme ses portes. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Ensemble avec Marin Piguet. Dimanche prochain, on parlera de se libérer des écrans, un enjeu qui est aussi spirituel selon notre invité, le prêtre Jean-Baptiste Bienvenue. Belle suite d'écoute et d'été sur RTS Espace 2.
Ensemble, Marin Piguet.
Ensemble avec Gilles Ozaman en régie, soyez les bienvenus dans la bande. Bien le bonjour à toutes et tous lors de ce rendez-vous convivial des chœurs, fanfares et autres ensembles de Suisse romande, voire au-delà pour aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. En guise d'ouverture d'émission, nous aurons d'ici quelques instants notre petit exercice d'échauffement aujourd'hui avec le chef Sébastien Frochot. Puis dans notre théorie des ensembles, rencontre avec un ensemble français. C'est un ensemble de cloches à main. On va découvrir donc une pratique assez intéressante. Ils étaient de passage dans le canton de Vaud cette semaine pour une série de concerts et j'ai rencontré deux membres de ce quatuor Pierre-Gosse, Michel et Patrice Latour. Et en fin d'émission, téléphone à Claude Darbelay qui est le programmateur musical du festival Le Tounot qui s'ouvre aujourd'hui à Saint-Luc. Merci d'être à l'écoute. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Ora staccato, le nom de cette pièce de Grigoras Dinicou, interprétée à l'instant par l'Orchestre Philharmonique à Vent de Vienne, dirigé par Marc Reift. Avant notre échauffement du jour, encore quelques notes patriotiques.
Mon pays chante autour de moi, par ses sources, par ses collines, ses clochers. Partout à la fois, s'appelant quand le soir décline. Ô mon pays, calme et rêve, là-bas grondent les grandes villes, mais j'écoute.
par ses mille fleurs printanières, les parfums de ses frais sous-bois et son ciel vibrant de lumière. Ô mon pays,
pays chante, une chanson de Paul Montavant, interprétée à l'instant par le quintet des Barbus de Derrière les Fagots. À l'enseigne d'ensemble sur RTS Espace 2, il est l'heure déjà de notre première séquence. C'est l'instant des petits trucs et astuces des différents chefs de chœur qui passent par cette émission. Sentez-vous libre de reprendre ces petits exercices dans vos propres répétitions. Aujourd'hui, c'est le chef Sébastien Frochot qui ajoute un exercice à la liste.
Ensemble, de quelle voix on se chauffe?
Bonjour, aujourd'hui un petit assouplissement pop. C'est surtout au niveau de l'harmonie que c'est pop. Alors, c'est une descente de quinte avec une petite cadence à la fin. Je vous montre ça. Vi, 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 vi. Vi, 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 vi. Vi, vi, vi. Et puis, je parlais de pop au niveau de l'accompagnement. On y va, 3 et 4.
Vi, 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 vi.
2, 3 et... Peut-être j'explicite juste les accords que j'ai faits. Donc là, c'était Do majeur, Si bémol majeur, Do majeur. Donc, premier degré, septième degré, premier degré pour ceux qui réfléchissent comme ça. Et puis, on peut aussi monter par demi-ton. On y va, on en fait quelques-uns. Vi, vi, essayez de raconter une histoire avec vos vivi. Okay, quelque chose qui soit fluide et joli. Faites-vous un peu votre propre histoire, mais... un peu de narration là-dedans. 3 et 4.
Vi, 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 vi. Vi, 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 vi. Vi, vi, vi.
Et 3, 4.
Vi.
En mode plus triste. Nous, 3, 4.
Nous, 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 nous.
Voilà, et ainsi de suite aussi, on peut essayer de varier les ambiances. Et puis, c'est vrai que ce petit accompagnement, juste ces deux accords, ça fait ce côté un peu, je m'en sucré pop, que je trouve très sympa.
Écoute, on est condamné à vivre 10 heures par jour ensemble, alors autant qu'on s'entende, non ?
Absolument.
Ensemble.
Tantum Ergo. C'est le nom de cet hymne pour chœur mixte initialement a cappella interprété à l'instant avec orgue, signé de la main d'Anton Bruckner et dirigé par Christian Erny face aux chanteurs-chanteuses du chœur de chambre de Zurich et Richard Octaviano Kojima à l'orgue. Une pièce que nous entendions dans l'enchaînement de ce madrigal pour cinq voix « Tu m'uccidi o crudele » de Carlo Gesualdo, cette fois-ci retirée d'une voix puisque dans un arrangement pour quatuor de saxophone, en l'occurrence le quatuor Xasax. From the mountain to the skies. Des montagnes jusqu'au ciel, c'est le voyage que nous promettait Paul Lovatt Cooper à l'instant dans l'interprétation du Liberty Brass Band dirigé par Stephen Roth. Nous voici arrivés à notre feuilleton de musique chorale helvétique. Depuis quelques semaines, nous traversons le jeu du feuillu d'Émile Jacques Dalcroze. On retrouve Robert Mermoux, l'orchestre de chambre de Lausanne, ainsi que divers ensembles vocaux.
Thank you.
et c'est notamment le petit chœur du collège de Montreux, ainsi que le chœur des jeunes filles de l'école normale, que l'on entendait à l'instant dans ce jeu du feuillu, cette chanson des Marmoutsets de mai. Émile Jacques Dalcroz à l'enseigne d'ensemble sur RTS Espace 2, notre feuilleton helvétique de musique chorale. Et désormais, il est l'heure d'ouvrir notre grand livre encyclopédique.
La théorie des ensembles.
Et ce dimanche, nous sommes à la lettre P, comme Pierre Gosse, le nom de l'ensemble Pierre Gosse, un quatuor de cloches à main. Et je suis en compagnie de deux de ses membres, et deux membres de la famille également, puisqu'on va le dire, c'est un quatuor familial. Bonjour Patrice Latour.
Bonjour.
Et bonjour également Michel Latour.
Bonjour.
Le quatuor Pierre Gosse, qui est donc un ensemble de cloches à main, je crois qu'il faut qu'on commence quand même par décrire ce que c'est que ce type d'ensemble, comment il fonctionne, et commençons peut-être rapidement tout de même par une petite page d'histoire. Quelles sont ses origines, son histoire à ce type d'ensemble de cloches à main?
Alors, les cloches à main, c'est une tradition typiquement anglo-américaine, puisque c'est parti d'Angleterre. C'est d'abord un instrument qui servait à répéter, à préparer un type de sonnerie dont ils ont l'habitude, de change ringing. On va pas rentrer dans les détails. Et après, quand ils ont traversé l'Atlantique, ils ont emmené les cloches avec eux. Et c'est resté, en tout cas, une longue tradition anglaise comme nord-américaine.
Et comment ça se passe? Concrètement, c'est un groupe de personnes qui se met, il faut dire, on vous attrape au détour d'une tournée vaudoise que vous faites. Nous sommes dans l'église de la Rosia à Puy. Il y a cette table face au public où seront tout à l'heure au concert alignées les cloches. Vous vous mettez en ligne et chacun joue de ses cloches. Est-ce qu'il faut dire quelque chose de plus précis que cela?
Ça peut toujours être du précis, effectivement. Le principe, c'est, si on regarde tous les ensembles, chacun a deux notes, s'il y a des musiciens parmi les auditeurs. Donc, si j'ai do, ré, je m'occupe de mon do dièse, donc mon ré, mes ré dièse, mon petit groupe. Et puis, les autres personnes ont, comme ça, à chaque fois, deux noms de notes. Mais nous, c'était un défi dès le départ, puisque nous avons 27 cloches, mais que nous sommes quatre à les jouer. Donc, les cloches circulent beaucoup entre nos mains. Mais sinon, le geste basique des cloches à main, ou handbells, moi qui ne suis pas très anglicisme, là c'est quand même d'origine anglaise, ça consiste en tenant la cloche fermement à lui impulser un mouvement qui permet au battant à l'intérieur de frapper.
Vous-même, Patrice, Michel Latour, comment est-ce que vous avez découvert cette pratique des cloches? Quand est-ce que vous vous y êtes mis tous les deux?
Il se trouve que je suis carillonneur à la cathédrale de Rouen, et d'ailleurs Michel fait aussi du décatement au carillon, et que nous connaissions Deia Marshall, c'est vraiment le nom, la personne qui a fait connaître en France les handbells, et qu'une fois nous étions chez elle, et on essayait plusieurs ensembles, plusieurs types de cloches, il y avait des néerlandaises, des anglaises, bon voilà, et puis il y avait notre fille,